Valérie Rétro, Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, ben c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Un fort, selon la définition de Thierry Duda, qui est co-responsable du fort des Lyonnais, et j'aime bien le 6000. Un fort, pour la Suisse, c'est un peu comme un sous-marin nucléaire. C'est une arme de dissuasion. Il s'en est construit plus de 1000 durant la Deuxième Guerre mondiale dans le plan du réduit national. Le but était finalement de pouvoir protéger la Suisse contre tout type d'invasion. En fait, que tout envahisseur qui désire pénétrer en Suisse, le coût en hommes, en temps, en argent et en munitions lui soit tellement grand que ça le dissuade de venir envahir. Parce que même si la Suisse était neutre, eh ben ça reste un pays envahissable. On a bien vu la preuve avec le Danemark, la Belgique ou encore la Hollande qui sont fait envahir, mais alors largement. La Suisse a profité de son relief pour construire ses forts dissimulés dans la montagne ou encore ailleurs, mais là il s'agit de montagne puisque c'est celui d'Eviona qui nous intéresse, un fort qui a été classé secret défense jusqu'en 1995.
Exactement, jusqu'en 1995, les gens qui étaient dans la région ne savaient pas ce qu'il y avait là-bas.
C'est marrant parce que j'ai un collègue, mon cher Bastien, qui me disait « Mais moi, j'ai grandi à Eviona, je savais pas qu'il y avait un fort à Eviona, monsieur Duda. » Donc les gens d'Eviona, ils savaient pas.
En fait, non, on savait pas. Et je dois dire même que moi, il y a quelques années, je l'ai cherché et je l'ai pas trouvé. Et c'est là, en fait, parce que ce fort fait partie de l'association Pro-Forteresse, que je me suis intéressé à l'association Pro-Forteresse. Et puis que je suis vraiment allé voir de plus près où c'était. Et j'ai fini par trouver l'entrée.
Alors, encore aujourd'hui, enfin voilà, il n'y a pas de panneau vraiment indiqué, il faut vraiment savoir où on va.
Il y a un petit panneau qui est inscrit dans le village, parce qu'en fait, le fort a été pendant pas mal d'années ouvert au public. C'était une visite libre qui était faisable en famille. On pouvait acheter un billet à l'entrée. Il y avait un vieux camion militaire qui permettait d'acheter un billet et d'aller se balader dans une partie des couloirs. Mais en fait, une grande partie du fort, il faut savoir qu'il fait plus de 1000 mètres de long en termes de galerie. Une grande partie de ce fort
était
fermée.
Rien que de long, c'est-à-dire avec toutes les galeries, est-ce qu'on sait plus ou moins combien c'est?
Ouais, on est à 1500 mètres de galeries au total.
Waouh! Et ça, maintenant, aujourd'hui, on peut le visiter grâce à vous, grâce à votre association. Et comment est-ce que ça se constitue?
Alors, l'association, c'est l'association Pro-Forteresse, qui est propriétaire de plus de 50 ouvrages dans la vallée du Grand-Saint-Bernard et du fort d'Eviona. C'est le fort de Champais, le fort de Commères et le fort d'Eviona pour les trois plus grandes infrastructures. Et puis, effectivement, avec mon collègue Yann Cazorla, qui est instituteur à Fuilly, donc je peux profiter de ses connaissances en histoire pour améliorer le parcours didactique du fort. On a mis ça en place maintenant depuis le mois d'août. Et puis, on commence à ouvrir les portes. On a les premiers groupes qui viennent nous voir.
Et c'est tout nouveau. Et justement, d'un point de vue, vous parlez du parcours. Par quoi on va pas forcément faire toutes les étapes parce qu'il faut quand même que les gens aillent le découvrir. Mais pour donner un petit peu envie, par quoi on va passer, par exemple?
Nous, on est des passionnés d'histoire militaire, et on veut vous faire vraiment partager cette aventure, cette expérience de rentrer dans un fort qui était secret défense. Vous aviez pas le droit de dire ce que vous y faisiez, pas le droit d'y dire où c'était. Et donc, en fait, de vous faire partager cette histoire et de vous montrer comment ça a été construit, comment est-ce qu'on défendait un fort, qui le défendait, et puis ensuite parcourir à travers une première galerie qui fait 350 mètres de long, ce qui est à peu près unique. En tout cas, moi, j'en connais pas d'autres et j'en ai visité pas mal. Et on a 350 mètres de galerie taillée dans la roche et qui ensuite débouche sur les parties cantonnement, les parties combat. Et là, on explique toute l'histoire du fort, comment est-ce qu'il a fonctionné, qui était dedans, qu'est-ce qu'ils y faisaient. Et on a reconstitué les différentes chambres, les différentes messes des officiers, magasins de munitions. Et on a une petite partie avec un petit musée militaire suisse où on trouve une évolution de l'équipement du militaire suisse depuis 1878 jusqu'à 1990. Et maintenant, il y aura bientôt un nouvel équipement, mais je crois que l'armée ne veut pas nous le donner encore.
Oui, alors, je pense que si les recrues ne l'ont pas encore maintenant, j'imagine bien que pour amuser, peut-être pas encore tout de suite. Mais par contre, qui était, on reviendra dans un petit moment sur l'équipement, mais qui étaient ces soldats qui défendaient ce fort et qui étaient préparés pour combattre depuis ces forts?
Alors celui-ci à Eviona, c'était un fort d'infanterie. C'est encore une chose qui est particulière, c'est qu'on trouve des forts d'artillerie et des forts d'infanterie. Dans les forts d'artillerie, on y trouve des canons lourds qui vont jusqu'à des calibres 150. avec souvent 200, 300 hommes qui étaient à l'intérieur, répartis en des soldats de forteresse, des soldats d'infanterie, des soldats d'artillerie. Et puis là, le fort d'Eviona a cette particularité que c'était en fait une défense anti-char. Donc on a une défense anti-char qui traverse toute la vallée du Rhône de part en part, qui fait 1,5 km de long, qui est donc délimitée par ces Toblerones ou dents de dragon, comme on dit. Ouais. Voilà.
Et puis ces blocs en béton qui sortent de terre, mais qui en fait sont plantés à 6 mètres sous terre.
Alors pour ils pas sont que ça bouge. Pas aussi profond que ça, mais c'était bien prévu pour que le char en fait monte dessus, puis découvre en fait le dessous du véhicule et qu'on puisse, c'est sa partie qui est en fait vulnérable et que les soldats puissent le détruire de cette façon.
Oh, donc c'est pas seulement pour stopper.
C'est pas juste pour bloquer, non.
C'est pas juste pour bloquer, non. C'est pour qu'il essaye de le passer, puis quand il passe, ben là on peut tirer dessus dans sa partie la plus.
Une arme anti-char.
Waouh, ok, d'accord. Et au fort d'Eviona, donc c'était 300 hommes qui étaient cantonnés là. Il y avait des gens.
Alors, pas Eviona. 300 hommes, on avait ça à Champé. À Eviona, on est environ 100 à 150. Une petite compagnie, on va dire, qui était répartie entre l'intérieur du fort, qui est sur 4 étages, et dont 130 marches d'escalier taillées dans la roche.
Ah ouais.
Et une partie de l'effectif qui, lui, était stationné dans le village avec les cuisines principales et les réfectoires et les dortoirs principaux.
Donc là, on a des gens qui sont dans le village, on n'a pas de caserne aux alentours, et ils doivent faire en sorte de ne pas être vus, ou est-ce qu'ils pouvaient se balader avec des habits militaires, ou pas du tout?
Alors oui, bien sûr. Là, en fait, pendant la mobilisation, la région en fait, était gardée, la région était bloquée, donc y avait les militaires étaient là, ils étaient en poste, on avait de l'infanterie, on avait de la mitrailleuse, du lance-mine, et on avait les équipages dans les forts, qui eux gardaient les emplacements avec des mitrailleuses et des canons anti-chars.
Et c'est complètement fou ça. Et est-ce qu'on sait combien de temps ça a pris pour construire cette fortification?
Alors celle d'Eviona, on a une première partie qui date de 1936, qui est là maintenant l'ouverture principale, l'entrée principale, qui était la défense passive anti-aérienne du village d'Eviona. Et puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1940, la décision est de construire ce fort-là, comme plein d'autres d'ailleurs. Et en 1942, il est opérationnel et la troupe en prend possession.
En deux ans, entre le moment de la décision, dis donc.
Et c'est pas le seul qu'ils ont construit en deux ans.
Oui, c'est ça, parce que le Raid du National, je crois savoir que c'est le général Dufour qui a été visiter les. Le général Guizan qui avait été visiter la ligne Maginot avec toutes ces fortifications, puis qui s'est dit, ok, il faut qu'on fasse un truc similaire, avec la petite différence qu'on va le mettre en pente à chaque fois en dévers pour comme ça, s'ils peuvent pas nous inonder, comme c'était arrivé malheureusement dans la ligne Maginot en France. Mais c'est ça, en fait, on va en deux ans construire plus d'un millier.
Ouais, exactement.
De fortifications.
Et ça, dans le secret le plus total.
C'est
et
ça.
Que la population n'a quasiment jamais su. On découvre, en fait, maintenant, depuis quelques années, on a le fort de Chillon, on a le fort de Prégirou. Chez nous, chez Proforteresse, Commer et Champais, qu'on fait visiter régulièrement. Effectivement, les gens découvrent ça depuis des années, depuis quelques années seulement.
Ça fait 80 ans qu'on a lancé la construction, gentiment, ouais. Un peu plus. Et c'est maintenant plus de 20 ans, c'est gentiment une trentaine d'années. Bientôt, l'année prochaine, ça fera 30 ans que que certains de ces sites sont déclassifiés.
Ouais.
Et c'est gentiment que ces dernières années qu'on commence à avoir droit d'y accéder. Mais est-ce que c'est parce que l'armée a voulu les garder en réserve au cas où?
L'armée les a gardés en grande partie en réserve pendant un moment. Il y a même encore actuellement des forts qui sont déjà décommissionnés, que l'armée n'utilise plus et qu'elle ne vend pas à cause de la situation actuelle un peu à travers le monde et qu'elle garde en réserve, on ne sait jamais.
En sous-main. Et puis, est-ce qu'on peut vous parler de ce que vous aviez à l'intérieur du fort? Vous me disiez tout à l'heure hors micro qu'il y avait même encore quelques canons et puis il y avait deux canons et trois mitrailleuses, c'est ça?
On a deux canons de 9 cm, canons anti-char, et puis trois mitrailleuses, dont deux qui sont sur affût, que les gens peuvent manipuler, voir, toucher, et une mitrailleuse qu'on a maintenant déplacée dans le petit musée qu'on a fait dans l'ancien local de munitions. Et qui est sur un affût de campagne pour qu'on puisse voir comment c'était disposé.
Oui, alors on précise que ce sont tous des armes qui ont été
100% neutralisées, démilitarisées.
Exactement.
On n'a pas le droit de tirer sur les maisons du village.
Ouais, c'est dommage, mais c'est dit, peut-être pas sur les maisons du village, mais des cibles en face. Mais ça risquait d'être un petit peu problématique, on peut imaginer.
Non, c'est clair.
Et parlons un petit peu de ce musée. Alors déjà, on parle depuis la guerre du Sonderbund. Avant la guerre du Sonderbund, on n'avait pas d'uniforme. Et puis quelques années après cette guerre, qui est la dernière guerre qu'il y a eu, en Suisse, oui. En 1848,
1800,
dans les années 70, 1870, là, on crée un uniforme. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu tout ce concept ?
Alors en fait, effectivement, donc on avait des armées cantonales jusqu'à ce moment-là.
C'est fou ça.
Et, oui. Et puis là, sous l'impulsion du général Dufour, on crée en fait une armée nationale qui prend ses quartiers à Thun, dans une caserne qui existe encore toujours et qui s'appelle toujours d'ailleurs la caserne Dufour, en tout cas en partie. Et puis en fait, ben à ce moment-là, on équipe les gens avec un uniforme. Et les soldats qui rejoignent l'armée de la Confédération suisse reçoivent tous le même uniforme en fonction de l'attribution qu'ils vont avoir.
Donc on parle avant d'équipement militaire, et là, par son uniformité au sens propre du terme, c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'uniforme pour,
exactement,
pour l'armée suisse.
Exactement. Ouais.
Et est-ce que vous me disiez aussi, vous aviez un petit musée à l'intérieur sur l'équipement militaire, sur l'histoire et l'équipement militaire.
Voilà, donc on peut voir toutes les évolutions, ensuite 1890, 1914, 1940, ensuite les années 50, 70, 80, avec une petite évolution encore une fois, et puis après l'équipement 90, avec des pièces qui ont été mises là et des pièces modernes. Donc on peut vraiment voir l'équipement du soldat comme il a évolué en partant du chapeau en feutre, en arrivant jusqu'au casque en Kevlar en fait.
Ouais, donc on va pouvoir aussi toucher ces objets-là ou
alors
pas
trop... Ceux-là, on peut pas les toucher parce que c'est vraiment des objets de collection, et on a de la chance d'avoir des collectionneurs passionnés qui nous ont mis ces pièces en nous disant attention, ce genre de pièces-là, même à Thun, ils les ont pas. Donc on est assez fiers de pouvoir les montrer, mais ceux-là, on peut pas les toucher.
Surtout que Thun, c'est pas une des plus grandes places d'armes.
C'est la plus grande place d'armes.
Et potentiellement la plus ancienne aussi.
Je pense que ça doit être une des plus anciennes. Je suis pas un grand spécialiste à ce niveau-là.
Mais voilà. Ben, en tout cas, ça donne envie. Où est-ce qu'on peut aller trouver toutes ces informations pour venir vous voir, en plus de pouvoir comme ça chercher l'entrée?
Alors nous, on est disponible, bien entendu, comme tout le monde, sur Facebook, sur Instagram. On a la chance d'avoir une community manager qui s'occupe de ça. Notre site internet n'est pas vraiment à jour, donc évitez-le, tout simplement. Allez sur Facebook et Instagram, c'est plus efficace.
Et qu'est-ce qu'on tape? Fort des Vionnats?
Voilà, vous tapez Pro Forteresse ou Fort des Vionnats et vous allez nous trouver. Et puis, ben, si jamais, le 7 décembre, à 10h30 du matin, on organisera une visite guidée pour tous les gens que ça intéresse. Donc vous pouvez aller sur Internet, donc sur Facebook et Instagram pour prendre les informations. Et vous serez les bienvenus pour faire une visite d'à peu près 1h30, voire 2h si je suis en forme.
Surtout que là, potentiellement, il y a des personnes qui ont été dans ce fort.
Alors ça, ce serait extraordinaire. S'il y a quelqu'un qui a fait son service à Eviona, il faut absolument qu'il nous contacte parce qu'on a tellement de questions à lui poser et personne ne peut nous répondre.
On lui déroulera le tapis rouge à cette personne-là, on est d'accord, c'est ça?
Ah oui.
Bon ben voilà, le message est lancé. Si quelqu'un a fait son école, son service militaire à Eviona, contactez une fois de plus le nom de la...
Pro Forteresse.
Et puis sur Facebook, Instagram, Pro Forteresse ou Fort d'Eviona, on vous trouve, et le 7 décembre, on peut aller dès 10h faire une visite guidée. Mais quelle chance de découvrir un petit peu. Bon, on l'appelle pas pour rien la Grande Nuette, l'armée suisse.
Ah non, ça c'est sûr. Toutes les armées s'appellent comme ça.
On est d'accord. Et là, on peut la découvrir. Merci infiniment Thierry Duda. Je rappelle que vous êtes co-responsable du fort d'Eviona. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer. Et puis j'espère que ça aura donné envie aux gens d'aller visiter. Moi en tout cas c'est le cas.
C'était un grand plaisir, vous êtes les bienvenus.
Merci beaucoup, excellente soirée et à bientôt.
Merci.